téléspectateurs vont.
J'ai entendu ça aux infos. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Hello.
Un tout mini instant M pour bien finir la semaine.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Une fois par mois, je cède ma place au médiateur des antennes de Radio France qui soumet vos questions, mais aussi vos coups de gueule et vos coups de cœur aux voix et patrons de France Inter. Le rendez-vous du médiateur Bruno Denas, c'est à 9h50. En attendant, on croque dans la Madeleine du vendredi et souvenir là encore, on replonge dans Twin Peaks, l'une des séries les plus étranges, mais aussi les plus aimées de la planète. Romain Nigita, salut Romain.
Bonjour Sonia.
A rencontré ces très chic, Kyle MacLachlan, je l'ai dit comme il fallait.
C'est exactement, la vedette de la série.
La vedette de la série, c'était au MIPCOM de Cannes et c'était il y a quelques jours.
L'instant M, tous les médias sont sur France Inter.
Alors tous à vos madeleines cathodiques ou radiophoniques comme on les aime, si vous êtes le premier à me répondre, l'instantm@radiofrance.com, ça c'est notre adresse, l'instantm@radiofrance.com, vous gagnez, il est minuit, Paris s'éveille, le très beau film d'Yves Jelan sur l'histoire des cabarets de la rive gauche, réédité par Lina. Alors ma question ce matin, c'est la suivante. En 1962, pour la première fois, à la télévision, on fait jouer le téléspectateur qui est derrière son écran. Qui est l'animateur de ce jeu ?
Eh bien, c'est depuis l'Alhambra Maurice Chevalier à Paris que nous vous présentons ce soir notre émission Le Bon Numéro. Ce soir, vous ne verrez pas de candidat sur la scène de l'Alhambra. Non. Les candidats, ce sera vous, vous qui me regardez actuellement devant votre écran de télévision, pour gagner les 10 000 nouveaux francs, 1 million d'anciens francs qui sont offerts par la Loterie Nationale. Il n'est nul besoin de connaissances particulières, un peu d'astuces, et je crois que tout se passera bien pour vous.
L'Instant M at radiofrance.com. Bonne chance à vous tous.
L'Instant M avec Sonia De Villers.
L'événement série 2017, Romain Nigita, ce sera le retour de Twin Peaks, dont on savoure déjà le générique. On l'écoute un petit peu ?
Allez, allons-y.
Voilà, mais avant les nouveaux épisodes, la série a déjà une double actualité, un livre et une interview. L'interview, c'est vous.
Exactement, puisqu'il y a 25 ans, la série créée par David Lynch et Mark Frost s'était arrêtée sur un suspense insoutenable à la fin de la deuxième saison. Alors on pensait que l'on ne retrouverait jamais cette ville perdue au milieu de la forêt, une petite ville dans laquelle le meurtre d'une lycéenne met à jour des phénomènes étranges. Mmh. On parle quand même de visions remplies de nains qui parlent à l'envers et de géants qui mettent en garde contre le hibou. Ce sont des esprits maléfiques qui prennent un malin plaisir à torturer les humains, à moins que ces démons ne soient en fait que les révélateurs des turpitudes et des perversions des habitants de la ville. Puisque Twin Peaks est une sorte de parodie surréaliste des soap-opéras du type Dallas, avec un humour vraiment très très noir.
Alors notre guide, on s'en souvient, parce qu'il a quand même marqué toute une génération au sein de cette petite ville, c'était l'agent du FBI, Dale Cooper, venu enquêter sur la mort de Laura Palmer.
Et il était incarné dans la série par l'acteur Kyle MacLachlan. Alors il avait déjà été pour David Lynch la vedette des films Dune et Blue Velvet, et aujourd'hui il retrouve le personnage de Cooper dans les tout nouveaux épisodes de Twin Peaks. Et comme me l'a expliqué MacLachlan lui-même au MIPCOM à Cannes il y a quelques jours, lui aussi avait abandonné tout espoir.
Je ne savais pas ce qui allait se passer. Vous savez, depuis la dernière série, David et moi, nous sommes restés amis et on en parlait parfois. Je lui demandais s'il avait des idées ou s'il voulait refaire Twin Peaks. Mais il me répondait toujours de manière assez vague. Je suis pas sûr, peut-être pas.
Et à l'époque, c'était pas rien. Hein. C'était un cinéaste, déjà un très grand cinéaste, David Lynch, qui travaillait sur une série. En quoi c'était nouveau, justement, dans le paysage de la télévision ?
Alors, en fait, c'était pas la première fois qu'un cinéaste de premier plan produisait une série télé aux États-Unis. Dans les années 50, il y avait Walt Disney et puis aussi Alfred Hitchcock qui produisait des fictions pour le petit écran. Mais en fait, la réussite de Twin Peaks provient véritablement de l'alliance du style inimitable de Lynch, bien sûr, mais aussi de l'écriture de Mark Frost, qui était le showrunner de la série. Et comme le rappelle MacLachlan, à l'époque, Twin Peaks tenait vraiment du miracle.
Ce dont je suis le plus fier à propos de la série originale, c'est avant tout le fait que la chaîne ABC nous ait mis à l'antenne. C'était un vrai pari. Et aussi le fait que David ait pu imposer sa vision et sa création. Ce sera vraiment l'essence même de Twin Peaks.
Un petit mot peut-être pour rappeler que ABC, c'est l'équivalent de TF1, c'est ça, aux États-Unis.
C'est une chaîne très grand public qui a passé notamment par la suite Lost ou Desperate Housewives. Et c'est vrai que pour eux, c'était vraiment un pari. On se dit, tiens, on va faire quelque chose d'expérimental.
Alors, le vrai changement par rapport aux premières saisons, justement, de Twin Peaks, que commence à évoquer Kyle MacLachlan.
Mais c'est en effet la production, car à l'époque, au début des années 90, Twin Peaks était vraiment produite comme toutes les séries américaines. Une équipe de scénaristes, supervisée par Mark Frost, et des réalisateurs différents à chaque épisode. Qui se basait quand même sur le style établi par Lynch pour le pilote. Aujourd'hui encore, c'est la seule méthode possible pour produire 20 épisodes par saison sur les grandes chaînes. Mais pour la mouture 2017 de Twin Peaks, il y aura moins d'épisodes, car ça sera pour une chaîne du câble sur Showtime aux États-Unis. Donc Frost et Lynch ont tout écrit tout seul, et Lynch a tout réalisé. Et pour MacLachlan, c'est un vrai bonheur.
Bon, bah maintenant on veut savoir donc de quoi ça va causer ce nouveau Twin Peaks.
Et désolé Sonia, pour l'instant c'est le secret absolu. Mais une chose est sûre, selon Kyle MacLachlan, on ne reprend pas à zéro.
Ce n'est pas un remake de Twin Peaks. Et je peux vous dire que l'histoire est extraordinaire. Je n'ai pas le droit de vous dire quoi que ce soit, mais la nouvelle série est aussi imprévisible, aussi surréaliste et aussi bizarre que l'original. Vous n'allez pas être déçus.
D'accord, donc ça va être difficile d'attendre et on attend jusqu'à quand ?
Eh bien ça, on n'en sait rien puisque David Lynch prend son temps. Il a tout tourné, mais même la chaîne américaine n'est pas encore totalement sûre du nombre d'épisodes de la nouvelle saison. C'est Lynch qui décide.
Pour patienter, il y a un livre que le public français va pouvoir bientôt se procurer.
Exactement.
Donnez-le moi, je le montre à la caméra.
Le voici, ce livre, ça s'appelle « L'histoire secrète de Twin Peaks ». Alors c'est sorti hier aux éditions Michel Lafon, en français donc. Et si vous êtes fan de la série, moi je vous le dis, jetez-vous dessus. Ça se présente comme de vraies fausses archives sur la ville de Twin Peaks et de sa région. On retrouve des coupures de journaux du début du XXe siècle, des dossiers militaires, des extraits de journal intimes. C'est un dossier qui permet vraiment de plonger dans la mythologie de la série et de ses phénomènes étranges. Il est aussi question des francs-maçons, et même de Nixon et de JFK, c'est vous dire. Ça va quand même très loin.
Merci beaucoup Romain Nigita. Vous nous donnez envie de voir, de lire, de regarder. En tout cas, vous nous faites patienter. Alors, il fallait deviner tout à l'heure la voix de Pierre Bellemare. Vous l'aviez reconnu, Romain ?
Je l'avais reconnu au bout d'une vingtaine de secondes.
Voilà, donc c'est Pierre Bellemare qui a animé en 1962 le bon numéro. Merci à toute l'équipe de l'Instant M, à vous Romain Nigita, Anne-Cécile Perrin qui réalisait l'émission ce matin, à Redouane Tella qui nous a aidé à la préparer, Nicolas Slimani qui était à la technique. C'est l'heure du médiateur. Toute l'équipe de l'Instant M vous retrouve lundi. Pour ma part, je serai absente pendant 3 jours. C'est l'excellente Dorothée Barba qui sera au micro pour animer l'émission de lundi à mercredi.
France Inter, la séquence du médiateur, Bruno Denas.
Merci Sonia et bonjour à tous pour le rendez-vous du médiateur. Nous nous retrouvons chaque dernier vendredi du mois pour répondre à vos questions, mais aussi pour vous expliquer les fonctionnements de l'antenne de France Inter. Un sujet qui suscite beaucoup de réactions depuis plusieurs jours, c'est le traité commercial entre le Canada et l'Union européenne, le fameux CETA, bloqué jusqu'à hier par le gouvernement wallon. Jean-Marc Faure, bonjour.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Alors vous êtes le directeur de la rédaction, que pouvez-vous répondre aux nombreux auditeurs qui trouvent que l'on a beaucoup parlé des wallons, qui ont bloqué donc la signature, mais très peu du traité lui-même et de son contenu? Claude, par exemple, nous dit « On peut même se demander pourquoi votre correspondant à Bruxelles n'avait d'autres inquiétudes que de savoir si la date de signature du traité serait respectée ou non. »
Alors, je comprends le sentiment de Claude et en même temps, je trouve que ça témoigne ce qui est logique et en même temps d'une écoute parcellaire de l'antenne. C'est-à-dire que, comme souvent d'ailleurs, c'est-à-dire que on entend tel journal, donc on se dit « Ah, France Inter ne fait que ça. »
Oui, un auditeur n'écoute pas 24 heures
sur 24. Si vous voulez, c'est comme on est face à un arc-en-ciel et puis je ne vois que le violet. Bon, en réalité, il y a l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que si on prend le CETA, je vous prends les 10 derniers jours sur l'antenne de France Inter, José Bové hier matin, donc pas précisément favorable au CETA et développant ses arguments en détail. Débat On n'arrête pas l'écho il y a moins d'une semaine entre les éditorialistes sur le sujet du CETA. Encore un papier explicatif hier matin sur la différence vraiment technique entre le contenu du CETA et du TAFTA. Qu'est-ce qui est différent ? Donc vraiment une explication pied à pied. Et il y a 8 jours, un téléphone sonne complet, 40 minutes, 19h20 à 20h avec Nicolas Demorand sur le CETA, donc débat de fond sur le contenu du CETA. Évidemment, quand on entend un élément en particulier, on se dit « Ah, il ne traite que cet aspect. Mais quand on écoute l'antenne dans sa globalité, je peux vous assurer qu'on essaie vraiment d'expliquer ce qu'est très concrètement le CETA et d'expliquer les arguments des uns et des autres.
Alors, autre sujet très commenté, la place de Nicolas Sarkozy sur l'antenne. Pour beaucoup d'auditeurs comme Jules, il bénéficie d'une surreprésentation, sa moindre déclaration est diffusée ou commentée à l'infini. Ou Bernard, à croire qu'il n'existe que lui seul se présente à la primaire de la droite et du centre.
Alors, c'est intéressant les commentaires de Jules et de Bernard, c'est ça ? Parce que ça, c'est révélateur d'une sensibilité extrêmement forte des auditeurs, d'ailleurs j'ai envie de dire du pays tout entier, aux propos et à la personnalité de Nicolas Sarkozy, on le sait, et c'est quelqu'un qui est très clivant.
Voilà, donc, exactement, dans ses
déclarations. Il y a une adhésion forte ou bien une opposition très forte. Et donc les auditeurs en particulier qui n'apprécient pas Nicolas Sarkozy trouvent dès qu'ils l'entendent ou dès que l'on parle de ses propositions que
ça, les crispe.
Ça les crispe. La réalité, pour être brut et direct dans la réponse, la réalité est que c'est faux. C'est-à-dire que le temps d'antenne, le temps de parole aussi accordé,
qui est comptabilisé en
plus, qui est évidemment comptabilisé sous le regard du CSA, le temps de parole est bien contrôlé. En l'occurrence, je peux vous dire qu'en l'état, mais il y a encore 3 semaines de campagne dans la campagne LR, le temps de parole accordé à Alain Juppé et Nicolas Sarkozy est assez comparable. Même, je crois, un tout petit peu plus pour l'instant pour Alain Juppé. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans des choses très comparables. Et puis en dessous, il y a François Fillon et Bruno Le Maire, puis ensuite les autres candidats.
Nicolas Sarkozy a lui-même suscité de nombreuses réactions après ça. C'était la semaine dernière, en direct sur France Inter.
Bonjour Patrick Cohen, merci de m'inviter. Je veux dire aux enseignants qu'on ne peut pas continuer comme ça. Un agrégé, c'est 15 heures d'obligation de service par semaine, 6 mois de l'année. Un certifié, c'est 18 heures d'obligation de service par semaine, 6 mois de l'année. Et un professeur des écoles, c'est 24 heures d'obligation de service par semaine, 6 mois de l'année. Il faut absolument revaloriser la fonction enseignante et il faut en même temps augmenter la durée de présence des enseignants dans les établissements scolaires. Donc je veux plus de présence des enseignants.
Nicolas Sarkozy était donc votre invité du 7-9, Patrick Cohen. Patrick, bonjour.
Bonjour.
Alors, et nous avons reçu de très très grand nombre de messages qu'on peut qualifier d'indignés à propos des déclarations de l'ancien président sur les enseignants, notamment le temps de travail. Alors, ces propos étaient vraiment insupportables, nous a écrit Jean-Philippe. Je travaille plus de 50 heures par semaine, je travaille le soir et le week-end. Et Jean-Yves ajoute, comment peut-on laisser dire qu'un enseignant ne travaille que 6 mois dans l'année ? Monsieur Cohen n'est-il pas aller à l'école pour se rappeler que le temps des vacances est toujours plus court que le temps de l'école. C'est pas faux, en effet.
Oui, c'est pas faux, Bruno. Non, je comprends évidemment l'émotion, l'indignation des enseignants sur la tonalité de certains propos qu'ils ont pu entendre ce matin-là. Je voudrais juste faire remarquer plusieurs choses. D'abord, il m'arrive assez régulièrement de corriger les propos des invités. En l'occurrence, j'interrogeais Nicolas Sarkozy, on parlait du nombre de postes qui avaient été supprimés au cours de son quinquennat. J'ai rappelé les chiffres des enseignants, de ceux des fonctionnaires de la défense et de l'intérieur, donc il y avait une discussion assez serrée là-dessus. Deuxièmement, quand Nicolas Sarkozy aborde la question du travail des enseignants, il parle du temps de présence en donnant des chiffres, et des chiffres qui étaient, me semble-t-il, je n'ai pas réécouté l'interview, qui étaient factuellement exacts. Alors certes, ils étaient incomplets, ils donnaient l'impression que les enseignants travaillaient très peu, et évidemment, il y avait quelque chose à la fois d'inexact et qui pouvait porter préjudice à la profession. Mais je savais à ce moment-là aussi que la séquence n'était pas terminée, qu'elle se prolongerait avec les auditeurs d'Inter. On m'a dit très vite qu'il y avait des auditeurs, des enseignants standards, oui, qui voulaient réagir et faire part de leur indignation. Et la séquence a été prolongée. Donc je demande qu'on entende la séquence d'interview dans son intégralité. Évidemment, ça aurait été dommageable si l'interview s'était achevée à 8h30 sans qu'il y ait pu y avoir un droit de suite de la part des auditeurs et des enseignants concernés.
D'ailleurs, vous l'évoquiez à l'instant, Patrick, est-il vraiment facile de répliquer en direct aux hommes politiques qui souvent d'ailleurs ont tendance à asséner leur vérité ou à s'arranger avec la vérité ?
Alors non, c'est pas facile, c'est un travail, il faut le...
Surtout vous pouvez pas tout vérifier, évidemment.
Il faut le préparer, il y a des degrés aussi dans, j'allais dire, il y a des degrés dans le mensonge ou il y a des degrés dans les inexactitudes. Il faut pas non plus que toute l'interview se transforme en bureau de vérification généralisé, en pinaillage, en contestation, etc. Sinon, il n'y a plus de sens à l'interview. Donc, c'est un équilibre qui est parfois assez difficile à trouver. Et puis, bon, voilà, il y a des hommes politiques qui ont des arrangements avec la vérité un peu plus importants que les autres.
Merci Patrick Cohen. Autre sujet qui nous a valu de très nombreux messages, les difficultés, voire les impossibilités que vous rencontrez depuis la semaine dernière pour écouter France Inter sur votre ordinateur, vos applications ou encore sur vos radios connectées. Laurent Friche, bonjour.
Bonjour Bruno.
Alors, vous êtes le directeur du numérique à Radio France. Que se passe-t-il et que peut-on faire ?
Les auditeurs nous écoutent de plus en plus depuis Internet. 10% d'entre eux même. Ils nous écoutent depuis quoi ? Depuis notre site de France Inter, depuis l'application, depuis d'autres applications d'écoute de radio, depuis des radios Wi-Fi, parfois même depuis des box d'opérateurs. Et l'ensemble de ces services repose sur une plateforme de streaming de la radio que nous confions à un prestataire. Alors une plateforme de streaming de la radio, ça peut paraître un peu impressionnant comme terme, c'est comme les pylônes, vous savez, qui permettent la diffusion hertzienne. Bah, il arrive que des pylônes tombent et ne permettent plus la diffusion et l'écoute de nos radios. C'est rare, ça peut arriver. Et ben ça arrive aussi dans Internet. Là, nous avons un prestataire. Nous venons d'en changer suite à la défection du précédent. Et en vrai, pour vous dire les choses, il y a très peu de prestataires qui ont ce savoir-faire de diffusion de la radio sur Internet. Le nôtre est de qualité et en train de mûrir. Nous travaillons énormément avec eux pour que la situation s'améliore rapidement pour nos auditeurs.
Alors les auditeurs se sont plaints aussi, j'allais dire à juste titre, de ne pas avoir été prévenus ni alertés. C'était une surprise pour vous aussi ?
Il y a assez peu d'incidents, mais il y en a eu un majeur mardi dernier, le matin. Un incident exceptionnel par sa durée, environ 3 heures d'indisponibilité. Et moi, voyez-vous, je l'ai personnellement découvert en essayant d'écouter France Inter sur mon smartphone. Alors là, nous sommes vraiment désolés de cet incident. Nous devons nous en excuser auprès de nos éditeurs. Et nous avons déjà pris les mesures pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus.
Alors il y a aussi une autre solution, c'est Sylvain qui nous la donne. Retour au siècle dernier, je vais revenir au bon vieux transistor dont la fiabilité n'est plus à démontrer. Et lui, comme beaucoup d'autres auditeurs, s'en prennent non pas aux difficultés récentes, mais aux players de France Inter, notamment mauvaise qualité d'écoute, malgré un bon débit Internet, ça n'est pas fluide, c'est lent. Pourquoi ces difficultés ?
Alors vous le savez, même en réception FM, vous entendez parfois des grésillements, vous les acceptez, cela fait partie d'une technologie qui a mûri pendant des décennies et des décennies. Elle est mûre et éprouvée. Sur Internet, il y a une succession de technologies entre nous, France Inter, et nos auditeurs. Des réseaux et des machines composant l'Internet, un fournisseur d'accès fixe ou mobile, du Wi-Fi, ou de la 3G, ou de la 4G, ou même de la 2G parfois, un logiciel ou une application de réception, tout ça paraît extrêmement compliqué. Les raisons d'une qualité dégradée sont multiples. Alors il est justement dans nos projets de nous doter des moyens de voir, d'analyser, de comprendre ce qu'il se passe dans les oreilles de nos auditeurs pour être les plus réactifs possibles en cas de difficulté.
Et il y aura des nouveautés pour France Inter par exemple ?
Oui, il y en a sans cesse et nous prévoyons d'ailleurs de lancer, je vous l'annonce, une nouvelle application pour France Inter le mois prochain qui sera complètement repensée, celle qui en ligne aujourd'hui a vécu. Elle ne fonctionne plus suffisamment bien, nous en sommes pleinement conscients. C'est pour ça que nous avons mis beaucoup d'efforts à la refaire. La prochaine, je l'espère, satisfera nos auditeurs connectés les plus exigeants.
Merci Laurent Friche, directeur du numérique, pour ces bonnes nouvelles. Merci d'être venu répondre aux auditeurs. Prochain rendez-vous du médiateur le 25 novembre. D'ici là, continuez à réagir sur notre site médiateur.radiofrance.fr ainsi que sur Facebook et Twitter.